Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue sur votre nouveau podcast Touchdown Actu. Nitinia Simion, très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast draft. Et à mes côtés, mon binôme de la fantasy, mon binôme pour cette saison de draft, c'est Antoine Ajavon. Antonio, comment ça va?
Ça va, comme d'habitude, et puis je dirais même encore plus que d'habitude, parce qu'on va parler d'une division qui fait toujours parler, justement, et qui est toujours sujet à controverses et débats.
Cette division, donc, Tonio, c'est la NFC Est. Et oui, les Dallas Cowboys, les New York Giants, les Philadelphia Eagles et les Washington Commanders sont sur le banc des accusés. Donc, pour notre conseil de classe, le débrief donc de cette draft NFL 2024 qui a eu lieu la semaine dernière. Je rappelle après ce débrief, on a des niveaux d'appréciation de la draft. Donc, félicitations, encouragement, félicitations, compliments, encouragement, pardon, passable, mauvais et blâme pour les appréciations. Tonio, sans plus tarder, on va commencer par The America's Team, les Dallas Cowboys, donc qui ont eu 8 choix dans cette draft. Tyler Guyton au premier tour avec le 29e choix, le tackle d'Oklahoma. Ensuite, au deuxième tour, 56e choix, Marshawn Kneeland, defensive end de Western Michigan. 73e choix au troisième tour, Cooper Beebe, guard de Kansas State. Toujours au troisième tour, 87e choix, Marist Liufau, linebacker de Notre-Dame. Ensuite, au cinquième tour, au 174e choix, Kalen Carson, cornerback de Wake Forest. Au sixième tour, Ryan Flournoy, receveur de Southeast Missouri State. Toujours au sixième tour, 233e choix, Nathan Thomas, tackle de Louisiana. Et enfin, au septième tour, 244e choix, Justin Rogers, défensif tackle de Auburn. Tonio, cette draft a 8 choix. Il n'y avait pas forcément de réel besoin, j'ai envie de dire, dans l'effectif complet des Dallas Cowboys, surtout quand on parle de défense. Mais voilà, cette draft, elle est un peu partie dans tous les sens du côté des Cowboys. Est-ce que on a vu une stratégie claire? Est-ce qu'on a des choix qui t'ont fait waouh? Est-ce que t'as des choix qui t'ont dit ça pose question?
C'est marrant avec les Cowboys parce que d'année en année, t'as l'impression que la philosophie se répète. C'est-à-dire qu'ils prennent pas vraiment en considération leur effectif. Ils laissent simplement les meilleurs joueurs, j'ai envie de dire, tomber à eux. Et en fonction de leur board, ils les sélectionnent, qu'ils en aient besoin ou qu'ils en aient pas besoin. Et c'est un peu ce qui s'est passé cette année. Tu l'as très bien dit, en défense, il n'y avait pas de besoin criant au poste de pass rusher. Et pourtant, avec leur deuxième choix au second tour, ils sélectionnent Marshon Nyland. Et écoute, moi, je suis plutôt d'accord avec eux. C'est plutôt un bon choix. C'est vraiment un athlète impressionnant. Il est grand. Il est, pour le poste, hein, il est assez grand. Il est explosif. Il a un très bon équilibre, des mains ultra solides et violentes. C'est vraiment un joueur, j'ai envie de dire, un peu sous-coté, qui est passé sous le radar pendant tout ce process draft. Et évidemment, les Cowboys, eux, quand ils voient un joueur avec des qualités athlétiques qui leur tombe encore une fois sur les genoux, ils se font pas prier. Donc c'est un peu ce qu'ils ont fait tout au long de la draft. Cooper Beebe, pareil. Enfin, qui aurait imaginé qu'il serait disponible au troisième tour? Il y est. Est-ce que les Cowboys ont besoin d'un garde forcément? Pas certain, mais c'est un joueur d'une telle qualité qu'on peut pas le laisser tomber plus bas. Et quand tu prends la liste de tous leurs joueurs sélectionnés, c'est un peu la philosophie qui les a guidés. Et c'est ce qui les guide année après année, à mon avis. Et moi, écoute, j'ai pas grand chose à redire à ce sujet. Il y a pas mal de problèmes chez les Cowboys. Mais en général, la draft, ça leur réussit plutôt. Mon seul petit regret, c'est qu'ils aient pas adressé, pour moi, ce qui était le plus grand besoin, c'était le poste de running back. Là, on enregistre quelques heures après qu'ils aient officialisé le retour d'Ezekiel Elliott. Pas certain que ce soit la réponse à tous leurs mots. Bon, c'est mon seul petit regret. Autrement, c'est une draft qui me plaît plutôt, vu la qualité des joueurs sélectionnés.
Moi, je serais même allé plus loin dans ton analyse, parce que l'analyse, voilà, elle est très bonne, comme tu l'as dit. Ils n'avaient pas forcément de besoin en défense, et ils ont quand même sélectionné un au deuxième, un au troisième, et aussi un linebacker, Maris Liufau, qui m'a tout l'air d'un choix qui pas très cow-boy. Je sais pas pourquoi, il a l'air assez gentil comme ça, alors que les linebackers, ils sont plutôt... les linebackers, en tout cas des cow-boys, ils sont plutôt fonceurs, ils ont envie de taper sur tout ce qui bouge. C'est dommage, par exemple, de ne pas avoir considéré un receveur aussi. Tu vois, parce que running back, là, pas de problème. C'est vrai que ça aurait pu être beaucoup mieux. Et receveur. Mais moi... je vais aller plutôt vers le premier tour. Tyler Guyton, le tackle d'Oklahoma. Il est massif, hein, ok, il est grand, il a une bonne envergure. Après, s'il tourne comme Tyler Smith, c'est-à-dire un joueur qui a joué guard mais qui a été tackle à Dallas et qui joue bien, pourquoi pas? Voilà, donc ça, c'est pas mal. Mais Tyler Guyton, ça fait pas très longtemps qu'il joue au poste de tackle à Oklahoma, un an et demi, voire deux ans. Et là, tu le prends au premier tour alors qu'il y a d'autres joueurs qui sont potentiellement plus adaptés au système Cowboys. C'est là où j'émets quelques doutes. Voilà, donc il y avait ça. Après, ce qu'on pourrait également regretter du côté de cette draft des Cowboys, en plus de la non-sélection d'un... alors si, un receveur qui est arrivé, c'est Ryan Flournoy. C'est surtout que tu vois, le poste de defensive tackle... où Navy Gallimore et Dorance Armstrong sont partis. Justin Rogers a été seulement considéré qu'au 7e tour. C'est un peu léger maintenant, on va dire, au niveau de l'intérieur de la ligne, alors qu'il nous avait habitués à mettre beaucoup de pression à partir de là. Donc ça reste une draft pour moi pas folle non plus, mais elle n'est pas catastrophique non plus.
Ouais, moi je suis un peu plus positif que toi quand même. J'irais bien au-delà de pas catastrophique. Je pense que c'est plutôt une bonne draft. Je sais pas si on mettait une note sur 20. Moi, je tournerais autour de 13 ou 14. Parce que voilà, c'est bien. Ça
sera peut-être pour l'an prochain, ça, les notes d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai qu'on part sur un système d'appréciation et ouais, voilà. C'est pas forcément clair pour tout le monde. Mais en tout cas, ouais. Pour moi, c'est, puisqu'on est au moment des appréciations, moi je donne des encouragements aux Cowboys. Il y a des joueurs vraiment qui sont de très bonne qualité, c'est juste qu'ils correspondent pas forcément aux besoins de l'effectif, mais ça fait jamais de mal d'avoir des bons joueurs.
Ouais, moi effectivement j'avais mis passable, mais je peux monter à encouragement effectivement, parce que moi c'est vraiment le premier tour, c'est vraiment Tyler Guyton moi où je mets un point d'interrogation, on va dire, sur son choix, sachant que le poste de tackle gauche est vraiment vacant depuis donc le départ de Tyron Smith. On passe désormais aux New York Giants, la franchise de la grosse pomme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au premier tour, ils sélectionnent au sixième choix Malik Nabers, receveur de LSU. Ensuite, au deuxième tour, au 47e choix, Tyler Nubbin, safety de Minnesota. Ensuite, au troisième tour, au 70e choix, Andrew Phillips, cornerback de Kentucky. Au quatrième tour, au 107e choix, Theo Johnson, tight end de Penn State. Au cinquième tour, au 166e choix, Tyron Tracy, running back de Purdue. Et puis enfin, au sixième tour, le linebacker Darius Moisao de UCLA avec le 183e choix. Seulement 6 choix pour New York, alors qu'ils ont quand même un effectif parmi les moins qualitatifs de la ligue. Est-ce tout de même une bonne draft ou on reste encore sur notre fin?
Non, c'est une bonne draft. C'est une bonne draft pour moi, pour les Giants, et ça commence avec leur premier choix. Malik Nabers, c'est un prospect exceptionnel au poste de receveur. La seule raison pour laquelle il n'a pas été le premier receveur sélectionné, c'est qu'il y en a un autre qui est encore plus exceptionnel, dont on a déjà parlé pendant des semaines et dont on reparlera dans les prochains podcasts. Mais c'est un joueur vraiment que j'adore. C'est une machine à yak. Il est électrique, ballon en main. Il a besoin d'un peu de raffinement peut-être dans ses tracés, mais même sans raffinement, il est déjà très très performant, donc c'est exceptionnel. Mais ce que j'aime bien dans cette draft, c'est qu'il y a des joueurs qui sont de potentiels titulaires, même tard. C'est-à-dire que Tyron Tracy Jr., moi c'est un running back, je ne serais vraiment pas surpris qu'il arrive à gratter un poste, alors peut-être pas de titulaire, parce j'ai un running back titulaire qui joue 80% des snaps, c'est de plus en plus rare en NFL.
Ouais.
Mais je pense qu'il va faire son trou dès cette année, dès sa saison rookie. Et voilà, il y a Saquon Barkley qui est parti. Ils ont recruté Devin Singletary et Eric Gray. Il a sa carte à jouer. Il a sa carte à jouer et récupérer un joueur qui peut potentiellement jouer plus de la moitié des snaps au cinquième tour, c'est très bien. Drew Phillips, cornerback de Kentucky, c'est un joueur particulier, mais que j'aime bien aussi, qui est très tonique, qui est très, très explosif. Quand tu mélanges tout ça, pour moi, c'est même une très bonne draft pour les Giants. Alors évidemment, il y avait le point d'interrogation, est-ce qu'on va sélectionner un quarterback? Pour moi,
justement,
du moment où tu donnes un contrat à Daniel Jones, ça n'a pas de sens. Même si je ne suis pas le plus grand fan de Daniel Jones, donnez-lui encore une année et puis on verra bien.
Justement, j'allais y venir. Ce qui pourrait faire regretter les fans des Giants et même les fans des autres équipes, c'est que les Giants ont essayé d'être agressif, hein. Et je pense que voilà, d'après les insiders, ils voulaient avoir Drake May, ils l'ont pas eu, donc ils sont tournés sur un plan B, mais un plan B efficace. Moi, parmi les sélections, moi ce qui pourrait m'interroger, c'est la sélection du cornerback Andrew Phillips, mais il a montré lors du processus draft qu'il pouvait être un très bon cornerback extérieur, puisqu'il manque vraiment un à l'opposé de Deontay Banks, et en plus il a pris le numéro 22, donc ça veut dire que Adoree Jackson bye bye. Et puis aussi j'ai beaucoup aimé, c'est la sélection de Theo Johnson, un tie-in qui pourrait peut-être dès la saison prochaine prendre la succession de Darren Waller, qui on ne sait pas trop si il va prendre sa retraite ou quoi que ce soit. Donc en fait bon, on sait très bien que les Jazz ne vont pas être des candidats au Super Bowl, mais avec cette draft, au moins, ils ont comblé des besoins principaux. Receveur, tu l'as dit, avec Malik Nabers. Safety, avec Tyler Nubbin, pour remplacer Xavier McKinney. Donc, clairement, déjà, l'attaque ressemble peut-être à quelque chose, hein, avec Malik Nabers. Et la défense, qui est déjà très performante, pourrait encore être encore plus performante avec la sélection de Nubbin et de Phillips. Donc, moi, c'est dommage. C'est peut-être le cornerback. Il y avait beaucoup de cornerbacks extérieurs qui étaient beaucoup plus aguets, peut-être que Andrew Phillips. Mais néanmoins, avec 6 choix, je pense que j'irai plus sur des encouragements. Voilà, encouragements plus. Voilà, plus. Voilà, au moins des solides encouragements.
Ouais, moi, je franchis la frontière et je donne des compliments carrément quand, avec si peu de choix, avec 6 sélections, tu te retrouves avec 3 potentiels titulaires. Voire plus, tu l'as très bien dit avec Theo Johnson, tu peux pas demander beaucoup plus. Et parmi ces titulaires, en plus, tu as une potentielle superstar, que demander de plus, quoi.
C'est ça, ils ont pris une direction et ils s'y tiennent. Voilà, donc, et comme ça, après, hein, pour terminer sur les Giants, si Daniel Jones il se plante, au moins tu peux reconstruire avec un quarterback qui a tout de même des cibles, qui aura peut-être une ligne offensive, mais au moins, voilà, s'il se plante, on sait maintenant à qui est la faute. On va passer aux Philadelphia Eagles. Alors, les Eagles, ils ont été des grands acteurs dans cette draft NFL. Ils ont monté 8 échanges dans cette draft. C'est un record. C'est un record dans toute une draft que les Eagles montent 8 échanges. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Eagles? Ils ont déjà, au premier tour, sélectionné au 22e choix Quinion Mitchell, cornerback de Toledo. Ensuite, au deuxième tour, ils sont montés au 40e choix pour sélectionner Cooper Dejean, cornerback safety d'Iowa. Troisième tour, 94e choix, Jalix Hunt, defensive end de Houston Baptist. Au quatrième tour, 127e choix, Will Shipley, running back de Clemson. Cinquième tour, 152e choix, Enya Smith, receveur de Texas A&M. Toujours au cinquième tour, ils sont même montés pour aller chercher avec le 155e choix, Jeremiah Trotter Jr., le linebacker de Clemson. 172e choix, toujours au 6e tour désormais, Trevor Keegan, garde de Michigan. Toujours au 6e tour, Johnny Wilson, receveur de Florida State. Et puis enfin, toujours au 6e tour, 190e choix, Dylan McMahon, centre, garde de North Carolina State. En plus, Philadelphia a cumulé des choix de draft pour l'an prochain. Bon, si on parle là-dessus, Tonio, je pense que Philadelphia a les félicitations si le but c'était de récupérer le plus de picks pour la draft de l'an prochain. Mais avant tout, si on évalue cette classe de draft des Eagles de Howie Roseman et de toute son équipe, clairement, les Eagles ont identifié le besoin principal et ils sont allés dessus dès les premières sélections. Est-ce qu'on trouve que c'est bien joué ou est-ce qu'on trouve qu'ils en ont fait trop?
Pour moi, c'est absolument bien joué et je vais être dithyrambique à propos de cette classe. C'est une... Enfin, je vais répéter le mot classe parce que je vais faire un anglicisme, mais c'est une masterclass d'Howie Roseman. J'ai envie de dire comme d'habitude et c'est un peu embêtant quand tu vois qu'il y a autant de GM incompétents dans cette ligue, qu'il y en ait un qui, chaque année, à la draft, il se fait plaisir, il récupère des choix en plus pour l'année suivante, et il récupère des joueurs d'une qualité folle. Pour moi, les deux meilleurs cornerbacks de cette classe, il les a, Quinion Mitchell et Cooper Dejean. Ce qui me fait un petit peu peur, en tant que fan absolu de Cooper Dejean, et voilà, c'était un de mes chouchous dans cette draft, c'est qu'avec deux sélections au poste de cornerback et une secondary qui est déjà assez pléthorique, qu'il le fasse décaler en safety, alors que pour moi, c'est un cornerback né. Mais bon, ça, c'est un truc dont ils se dépatouilleront lors du camp d'entraînement, et je ne doute pas que Cooper Dejean se fera sa petite place au poste de corner. Mais au-delà de ces deux premières sélections, mais tout est cohérent, tout est bien. Il y a même un petit choix pour se faire plaisir avec le fils d'une légende de la franchise, Jeremiah Trotter, au cinquième tour, Will Shipley au running back, dans le backfield qui va très bien compléter le jeu de Saquon Barkley, un peu plus en finesse Shipley, un peu plus on va dire
en puissance,
élusif.
Ouais. En puissance Saquon Barkley, ouais.
Ouais, tout à fait. Donc ça c'est très bien. Je sais même pas où donner de la tête tellement il y a de bons joueurs. Ils ont même pris Enya Smith, qui peut être un atout de premier choix sur les équipes spéciales. On sait qu'il y a une nouvelle règle avec le coup d'envoi cette saison. Il y aura une place un peu plus importante prise par les équipes spéciales avec des jeux dessinés spécialement pour ces phases de jeu, plus que par le passé. Là aussi, c'est pensé. Johnny Wilson, enfin, franchement, je fais la liste, mais il n'y a pas un seul joueur, une seule sélection que je n'aime pas. Johnny Wilson au poste de receveur, il est grand, il est costaud, il va contester des ballons. J'adore cette draft, c'est une masterclass, félicitations, A++++, tout ce qu'on veut, à Howie Roseman, GM de l'année, quoi.
Bah, clairement, moi, je vais pas te mentir, j'ai mis, comme note, félicitations haut la main. Voilà, j'ai mis ça, parce que, ouais. tu l'as dit, hein, tu l'as bien résumé, on va pas polémiquer, voilà, pour beaucoup d'heures, on va pas se mentir, cette draft, je l'aime beaucoup. C'est vrai, tu l'as dit, c'est cette phrase-là, il y a aucun joueur que tu détestes. Moi aussi. Il n'y a aucun joueur que je déteste. Peut-être la sélection du troisième tour, Jalix Hunt, le defensive end de Houston Baptist, peut poser question, mais c'est un joueur de rotation. C'est un joueur de rotation, hein, Jalix Hunt, et le potentiel athlétique, il est juste énorme. Donc, s'il le développe en tant que pass rusher comme un Brandon Graham par exemple, ou comme un Jalen Carter en tant que defensive tackle. Pourquoi pas, même si ce sera peut-être jamais un Jalen Carter. Bon, ça, je vais peut-être aller un peu loin. Mais oui, c'est vrai, ils ont fait un petit kiff, comme on dit, hein, en sélectionnant Jeremiah Trotter Jr., donc fils hein, de la légende des Eagles, Jeremiah Trotter, hein, double All-Pro, en plus chez les Eagles. Et comme tu l'as dit, moi, ce qui est vraiment incroyable, c'est quand même la sélection des deux meilleurs cornerbacks. Et pour Cooper DeJean, ils sont montés sans vraiment gaspiller trop de capital aussi. Et c'est ça qui est énorme.
Mais oui, mais tu vois, c'est toujours la même chose. Chaque année, quand tu as des joueurs que nous, suiveurs, on adore et qui est annoncé plus haut par tous les spécialistes de draft, tu le vois tomber dans la draft, tu te dis où est-ce qu'il va tomber. Et en général, quand un bon joueur tombe, c'est toujours Baltimore ou Philadelphie. Parce que c'est les deux franchises qui sont les mieux gérées, qui ont les deux meilleurs GM. Cooper DeJean, je l'ai vu tomber, je dis mais où il va aller, mais pourquoi tu te poses la question en fait? Il va aller à Philadelphie. Il est allé à Philadelphie et il va être une star en NFL. Ouais. Et voilà, et tous les autres GM vont s'en mordre les doigts. C'est comme ça.
Voilà, c'est comme ça. On verra bien ce qu'il va donner tous les dimanches en NFL. C'est vrai que c'est sa blessure de fin de saison qui a peut-être fait qu'il descende jusqu'au 40e choix, mais même le 22e. Hein. Quinion Mitchell, pourquoi il descend si bas alors que des équipes avaient des besoins au poste de cornerback? Les équipes qui sont concernées, je vous vise. Donc voilà, clairement, et Dylan McMahon, attention à lui, il est sélectionné quasiment au même niveau que Jason Kelsey. Donc attention à lui, il peut se développer en tant que très bon centre, qu'il a été très bon à NC State. Donc clairement, il y a du style, il y a du très bon choix, les joueurs à la bonne place au bon moment. Les besoins remplis, donc honnêtement, c'est effectivement, comme tu l'as dit, une masterclass d'Howie Roseman et on ne peut que le féliciter. Voilà, on a été dithyrambique sur les Eagles, c'est ce qu'on va l'être sur les Washington Commanders. Telle est la question, Tonio. Les Washington Commanders, donc la première draft du manager général Adam Peters et de Dan Quinn en tant qu'entraîneur principal. Donc premier tour, deuxième choix, Jaden Daniels, quarterback de LSU. Deuxième tour, 36e choix, Jerzan Newton, defensive tackle d'Illinois. Toujours au deuxième tour, Mike Sarnesteel, cornerback de Michigan. Toujours au deuxième tour, 53e choix, Ben Sidnott, tight end de Kansas State. Au troisième tour, 67e choix, Brandon Coleman, guard tackle de TCU. 100e choix, troisième tour, Luke McCaffrey, le frère de Christian McCaffrey, wide receiver, donc receveur de Rice. Au quatrième tour, Jordan McGee, linebacker de Temple au 139e choix. Cinquième tour, 161e choix, Dominic Anton, safety de Washington. Et puis enfin, au 222e choix, au septième tour, Javonte Jean-Baptiste, defensive end de Notre-Dame. 9 choix donc, du côté des Commanders. Mais est-ce pour autant une bonne draft, Tonio?
Ben, c'est marrant, c'est une draft où il y a des joueurs que j'adore et j'adore leur sélection à ce moment de la draft où ils ont été sélectionnés. Et il y en a d'autres où je me pose des grosses questions. Et évidemment, cette draft, on va commencer par le début, elle sera définie par le premier choix, par Jaden Daniels qu'ils ont sélectionné deuxième. Pour moi, c'est pas le bon choix. C'est un talent de fin de premier tour, voire début de deuxième. Alors évidemment, c'est un quarterback, donc comme il y a des besoins tous les ans à tous les postes.
Ah, tu vas loin, là.
Bah oui, mais c'est le jeu. Fin de premier tour, c'est pas une insulte non plus.
Normal, ah, oui.
Ouais, tout à fait. Donc, je comprends qu'il soit sélectionné un peu plus haut parce que le poste veut que. Mais malgré ça, je pense que Drake May est une ou voire deux têtes au-dessus de lui en termes de potentiel et j'aurais préféré le voir du côté de Washington. Ceci dit, c'est un joueur qui peut être adapté au système offensif des Commanders. On sait que Kingsbury, il aime bien les lancers courts et intermédiaires. À voir. Et puis, il a des qualités athlétiques, évidemment, qui sortent du lot. Moi, j'émets de gros doutes parce que en mouvement, il lance jamais le ballon. Dès que la pression arrive vers lui, il baisse la tête, il va tout droit. Alors évidemment, quand il va tout droit, difficile de le rattraper. Mais bon, à voir. C'est un point d'interrogation. J'aurais préféré Drake May. Mais pourquoi pas, ça se défend. Après, il y a des sélections que j'adore. Johnny Newton, magnifique. Mike Sainstreel, pareil. C'est-à-dire, c'est un cornerback qui est très limité. Il va jouer nickel, il va jouer dans le slot. mais c'est le meilleur nickel cornerback de cette draft et haut la main. Et pour moi, il va dominer à ce poste-là en NFL. Le prendre au deuxième tour, je n'ai aucun problème avec ça. J'adore. Brandon Coleman, le tackle de TCU au troisième tour. Gros potentiel, je suis fan aussi. Et puis, il y a d'autres choix où j'ai plus de questions. Je ne sais pas, Luke McCaffrey, aussi haut. Ok, d'accord. Faites-vous plaisir si vous voulez.
Enfin, moi, c'est le frère de Christian,
ouais,
après.
Je suis assez partagé. Sur...
Tu vois, ils ont un coup de fil. En plus, Adam Peters, ancien assistant manager général des 49ers. Hein, donc, il a été influencé, ouais, bah, écoute, probablement.
C'est-à-dire,
voilà,
qu'il doit être bien renseigné. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Non, donc voilà, il y a des sélections que j'adore. Il y en a d'autres où je me pose de grosses questions.
Ouais.
Donc voilà, on mélange tout ça, ça fait une note assez moyenne, je donne des encouragements. Mais voilà, ça dépend. Faudrait plus me demander une évaluation sélection par sélection, tu vois, pour être plus précis.
Ouais, alors là, oui, effectivement, si on fait sélection par sélection et donner une note, alors là, on en a pour 4 heures, je pense, à mon avis, surtout dans cette draft des Commanders. Alors moi, j'ai pas trop parlé, mais t'as presque tout dit, sauf que moi, je vais aller limite un peu plus loin. Là, je vais faire le bad cop. Jaden Daniels, je te rejoins. C'est vrai que c'est pas un quarterback top 5. Alors, quand je dis top 5, c'est pas top 5 de toute la draft. Hein. C'est top 5, on va dire, à sa position, oui. Mais sa grosse saison à LSU a fait que, ben voilà, c'est un deuxième choix parce qu'il représente des qualités que Cliff Kingsbury aime bien. Après, moi, je regarde leur deuxième jour et surtout leur deuxième tour. Tu l'as dit, Jarzan Newton, Max Steele, très bien. Pas de problème pour les joueurs. Mais est-ce des besoins prioritaires? C'est ça ma question. Est-ce des besoins prioritaires? Jarzan Newton, très bien, mais tu as déjà Jonathan Allen et Daron Payne. Ensuite, tu prends Max Steele. Tu avais déjà drafté Jartavius Martin. Tu as même drafté Emmanuel Forbes. Qu'est-ce que tu fais de ces joueurs-là? Enfin, moi, j'ai pas trop compris. Et même le tie-in, Ben Sinod, qui peut peut-être apprendre de Zach Ertz, mais c'est pas le meilleur tie-in de... Il est loin d'un deuxième tour. J'aurais préféré, par exemple... Tu vois, par exemple, s'ils auraient pris un Kate Stover ou un Theo Johnson, là, j'aurais dit peut-être. Pourquoi pas? Mais Ben Sinod, je suis partagé, mais sinon, à part ça, Tonio, le besoin principal, c'était même pas receveur, c'était tackle offensif ou sur la ligne offensive. Et là, Brandon Coleman seulement drafté, Jaden Daniels, ça va être compliqué pour lui, hein. Ça va être très compliqué de rentabiliser ce choix du premier tour, parce que bah déjà, on lui donne pas la ligne. Et on donne une cible qui est rookie en tant que receveur approché. Et puis, on a peut-être Terry McLaurin, Sharon Dodson, mais c'est tout, quoi. Après, bah, Luke McCaffrey, pourquoi pas. Ouais, c'est une draft qui est très compliquée à analyser, car les joueurs sont très bien, mais ce n'étaient pas les bons besoins. Donc je veux bien entendre... Ouais.
Simplement, sur le poste de cornerback, là, je vais aller un peu contre toi. T'as cité Emmanuel
ouais,
Forbes.
Ouais, ouais,
ouais. Emmanuel Forbes.
Ouais, j'ai compris. Voilà. C'est vrai qu'il a été un peu catastrophique l'an dernier, mais ça ne l'aide pas lorsque tu mets quelqu'un comme Mike Henry Steele qui est expérimenté et qui va plus jouer nickel cornerback. C'est pareil d'ailleurs pour Jartavius Martin qui a plutôt peut-être joué safety d'un coup. Mais c'est quoi le message que t'envoies à des hommes comme Derek Forrest qui va revenir en tant que titulaire probablement ou des mecs que t'as signé comme Jeremy Chin, quoi. Donc c'est ça le truc que je comprends pas, parce que peut-être que Adam Peters a fait sa première draft en tant que manager général, mais moi elle me convainc absolument pas. Je suis assez dur peut-être, mais voilà, c'est la façon dont je vois la chose.
Je pense que un élément de réponse, et finalement tu l'as dit toi-même, c'est que c'est un nouveau régime. C'est un nouveau régime qui n'a aucune attache au choix fait les années précédentes. Donc voilà, il y a aucune attache, il y a aucune loyauté qui prime. Ils préfèrent leurs joueurs, leur évaluation, et ceux qui n'ont pas le niveau, ils vont rapidement sauter. C'est pour ça que je pense qu'Emmanuel Forbes, malgré qu'il ait été sélectionné très très haut la saison passée, s'il continue sur sa lancée, qui malheureusement n'est pas au niveau de la NFL, ils ne vont pas hésiter à s'en
séparer. Oui, oui, ça par contre, je suis d'accord. Mais au-delà de cornerback, je veux bien effectivement qu'on ait un avis différent, ça c'est certain. Mais par exemple, la ligne offensive, là, je pense que tu seras d'accord avec moi que Jaden Daniels ne va pas être aidé. Forcément, là, il va devoir courir pour sa vie.
Et pour le coup, ça va lui faire bizarre par rapport à l'an passé, où il avait presque la meilleure ligne offensive du championnat universitaire. Ouais. C'est vrai qu'ils auraient pu adresser un peu plus ce poste. C'est vrai que, mais en tout cas, Brandon Coleman, moi, je l'aime beaucoup.
Oui,
j'aime beaucoup.
Je pense que pas sa valeur, ça c'est clair.
Ouais, comme tu l'as dit, en fait, c'est plus la logique qui peut poser question, parce que les joueurs en eux-mêmes, il y a vraiment de très bonnes sélections. Il y en a d'autres qui posent un peu plus
question. Oui, les joueurs, je pose pas de problème, ça c'est clair. Mais par contre, les besoins. Par exemple, des taquets, il y en avait de disponibles au deuxième tour, hein, Kingsley Suamataya, un Roger Rosengarten aurait été parfait dans cet effectif, mais bon, bref, les Commanders ont décidé de ne pas le sélectionner. Bon, bah, pourquoi pas, on verra ce que ça va donner en 2024, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que les Commanders ont eu le quarterback, et donc moi, donc toi, t'as dit encouragement, moi, j'ai mis passable, mais voire mauvais. Ouais.
Wow. Et tu vois, moi j'ai mis encouragement. S'ils avaient pris Drake May à la place de Jaden Daniels, j'aurais dit compliment voire félicitations. Tu vois, on a des, mais en toute façon c'est de la fantaisie là. Drake May, il est pas du côté de Washington, donc on fait avec ce qu'on a.
Après, l'effectif de Commanders, elle est de qualité, hein, ça y a pas de problème. Mais c'est juste que la ligne offensive, c'est peut-être juste une des pires, en tout cas sur le papier, qu'on a en tout cas dans toute la ligue. Voilà. Donc ça c'est, donc Jaden Daniels, je lui souhaite bonne chance en tout cas pour la saison 2024. Mais voilà, ça va pareil, ça va être encore peut-être très compliqué en attaque pour l'équipe des Commanders, malgré les excellents receveurs et même Austin Eckler qui est arrivé lors de l'intersaison. Tonio, on a fait le tour de la NFC Est. Je te remercie d'avoir été à mes côtés.
Merci à toi, comme d'habitude.
Et Tonio, on va devoir laisser la main pour les deux jours suivants. Moi, en tout cas, je ne laisserai pas la main, car je serai encore là. Je serai avec Victor pour le débrief de deux nouvelles divisions. En tout cas, pour faire le rappel, donc, on a dit Cowboys, compliment, encouragement. New York Giants, donc, compliment, encouragement également. Les Philadelphia Eagles, félicitations. Haut la main et voire A++. Et puis enfin, les Washington Commanders, encouragement, passable, moins, voire mauvais. Voilà, c'est ce que j'avais dit lors de l'évaluation. merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez TD Actu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, X, sur Instagram également. Et n'oubliez pas le Tipeee qui permet de financer ce podcast. Merci encore à toi, Tonio. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Salut.
Jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.